Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Le mot conversion est un terme religieux qui est d'un usage courant. Mais que signifie-t-il exactement? Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit à l'énoncé de ce mot? Le nom conversion est souvent cité dans les Écritures et nous devrions par conséquent être à même de lui trouver une définition basée sur la parole de Dieu. Disons que généralement, on comprend qu'il s'agit du processus qui permet à quelqu'un d'être sauvé du péché et par lequel il entre en relation avec Dieu par Jésus-Christ, mais d'une manière nouvelle, différente de ce qu'il était auparavant. Il est très important de savoir qu'une âme n'est nullement ajoutée à l'Église du Christ par le moyen de la naissance physique, mais précisément grâce à la conversion. Cette pensée devait être méditée sérieusement par les millions d'êtres humains qui comptent être sauvés uniquement grâce à une décision qui a été prise pour eux dans leur enfance par leurs parents. Il faudrait que chaque homme, chaque femme sache que la conversion conditionne véritablement le salut et que, par voie de conséquence, seuls ceux qui ont atteint un certain degré de maturité sont à même de pouvoir le faire. Un bébé, un enfant, est évidemment dans l'incapacité totale de pouvoir se convertir. Nous vous proposons aujourd'hui de méditer ensemble pendant quelques instants sur ce sujet si important qu'est la conversion. Quand l'apôtre Pierre prêcha le second sermon qui suivit la résurrection du Christ, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Le mot « conversion » signifie d'après sa racine latine « tourner »,« changer ». On le comprend mieux quand, par une étude attentive de son emploi dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que presque chaque fois, la chose qui tourne ou qui change se transforme d'elle-même. La conversion est donc un changement, une transformation spirituelle qui correspond à un acte propre de l'homme, faisant lui-même suite à une invitation de Dieu. L'être humain est pleinement responsable de sa transformation et peut donc être justement condamné pour avoir refusé que nous voulions qu'une certaine roue tourne. Nous ne pouvons pas la condamner si elle est incapable de tourner par elle-même ou grâce à l'aide d'une force extérieure. Dieu serait également injuste s'il condamnait un être qui serait incapable de se tourner vers lui et par conséquent de changer. Ce simple fait devrait pouvoir dissiper tout malentendu ou toute mauvaise compréhension qui plane sur le sujet de la conversion. On a parfois tendance à penser que l'homme reste presque passif dans la conversion. Certains croient que c'est le Saint-Esprit qui effectue miraculeusement la conversion, sans que cela comporte aucune action directe du pécheur. Ce serait peut-être d'avoir une confiance mentale dans le Seigneur. Le Nouveau Testament démontre toutefois qu'au premier siècle, les pécheurs jouaient au contraire un rôle très actif dans leur conversion, en obéissant au commandement de Dieu. À la lueur de ce que nous venons de voir ensemble, nous pourrions dire que la conversion est en réalité un tournant de l'existence. Et se convertir est en réalité se tourner vers Dieu. Nous pouvons donc maintenant nous demander quelle importance revêt la conversion. En Actes chapitre 3, le verset 19, le Saint-Esprit rend la conversion nécessaire au pardon du péché. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, dit ce texte. Tout ce qui est nécessaire à la rémission des péchés est excessivement important. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les disciples venaient de demander au Christ qui serait le plus grand dans le royaume, et le Fils de Dieu en réponse les avertit solennellement qu'ils n'entreraient même pas dans les cieux s'ils ne se détournaient pas d'une telle vaine ambition. L'importance extraordinaire de la conversion est également mise en évidence dans le langage qu'il tient en Matthieu chapitre 13, où il applique une prophétie d'Ésaïe à ce peuple qui se refuse à croire en lui. Il dit notamment, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Le Seigneur dit ici clairement, la conversion est une nécessité absolue pour être guéri de la maladie spirituelle du péché. Le dernier verset de l'épître de Jacques montre avec tout autant de clarté que même le chrétien qui pêche doit se convertir, changer s'il veut être sauvé. La vraie conversion sauve l'âme de la vie spirituelle ou de la séparation éternelle d'avec Dieu. Il faut que nous sachions cela. Entrons encore un peu plus profondément dans le vif du sujet, en nous demandant comment donc s'effectue la conversion. S'il est vrai, comme certains l'enseignent, que la conversion est produite par une opération directe et miraculeuse du Saint-Esprit sur le cœur du pécheur, nous pouvons nous étonner de constater que jamais on ne trouve de chrétiens là où on n'a pas prêché l'Évangile. Cela démontre amplement que la conversion ne peut s'effectuer autrement que par la proclamation de l'Évangile. Les Écritures confirment d'ailleurs sans ambiguïté cette conclusion. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, écrit le psalmiste. En manière donne cet ordre à chaque chrétien. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire à la conversion. L'apôtre Paul, en Romains chapitre 1 et verset 16, ne dit-il pas également que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons donc vu que la conversion est un changement, une transformation ou un retour du pécheur vers Dieu, qu'elle est nécessaire au salut et que seul l'enseignement de la parole de Dieu peut amener ce pécheur à être sauvé par la grâce divine. Peut-être le sujet de la conversion deviendrait-il plus lumineux encore si nous nous penchions sur la nature de la transformation qu'elle produit. Trois changements fondamentaux doivent s'effectuer lors de toute conversion. Tout d'abord, le cœur de l'être humain doit changer. Au lieu d'aimer le péché, il doit avoir de l'amour pour Dieu. Ensuite, la vie ou la conduite de l'homme doit se transformer. Le péché doit le quitter pour faire place à la justice de Dieu. Et enfin, l'état dans lequel il se trouve, ou si vous voulez, les relations qu'il entretient, doivent être différentes. Il quitte les règles du royaume des ténèbres pour aller vers la volonté de Dieu. Les commandements ou les désirs avec lesquels Dieu confronte l'homme provoquent ces changements. Il nous enseigne de croire en lui et en son Fils Jésus. Cette foi change nos cœurs et nous fait nous éloigner du péché pour aimer Dieu et sa parole. La vraie foi purifie nos cœurs, stipule bien Pierre en Actes chapitre 15 et verset 9. Notre vie est transformée par la repentance qui est véritablement un changement d'esprit et de volonté qui mène vers une vie entièrement différente de ce qu'elle était auparavant. Jésus montre excessivement bien, d'ailleurs, ce qu'est la repentance en racontant l'histoire du fermier qui envoya son fils travailler dans sa vigne. Tout d'abord, le fils dit « Je ne veux pas ». Ensuite, il se repentit et y alla, nous dit Matthieu 21-28. La repentance est donc tout simplement ce qui différencie le refus exprimé par « Je ne veux pas » de l'action il y a là. Avant de se repentir, le pécheur refuse de faire la volonté de Dieu. Après, tout simplement, il accomplit cette volonté de son mieux. Mais l'état profond de l'être reste à changer. Il doit entrer en Christ. Laissons l'apôtre Paul expliquer cette expression biblique. Vous êtes tous fils de Dieu, dit-il, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Cela est dit en Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Le baptême ne change ni le cœur ni la vie, mais est tout simplement l'acte que Dieu a prévu et par lequel l'homme est en quelque sorte introduit dans le corps de Christ, qui est son Église, et cela après avoir cru et s'être sincèrement repenti. Beaucoup demanderont, n'est-on pas sauvé dès après la foi, sans même avoir été baptisé? Servons-nous d'une comparaison pour mieux expliquer ce point essentiel. Supposons qu'un homme et une femme tombent amoureux. Ils apprennent à avoir foi l'un dans l'autre. Ils s'écartent alors respectivement des autres jeunes gens et des autres jeunes filles pour mieux se consacrer l'un à l'autre. Ceci correspond donc plus ou moins à la repentance. Mais sont-ils mariés pour autant? Absolument pas, car la loi dit que pour cela, ils doivent échanger des vœux devant témoins. C'est après cela seulement qu'ils seront mariés et femmes. De la même manière, le pécheur peut être amené par la foi à aimer Dieu et à haïr complètement l'iniquité. Il peut ensuite, par la repentance, transformer sa vie de péché en existence conforme aux enseignements de Christ. Mais est-il maintenant marié au Fils de Dieu avant d'avoir obéi à sa loi qui dit qu'il faut avoir été enseveli avec lui dans les eaux du baptême, en similitude avec sa propre mort, pour ensuite ressusciter dans une vie exempte de péché comme lui-même est ressuscité? Est-il sauvé? Non. Non, mille fois non. Venons-en maintenant au but de cet entretien. Êtes-vous converti? Avez-vous, à un certain moment de votre existence, décidé délibérément de changer de vie, de transformer votre existence en venant ou en revenant vers Dieu, en accomplissant toute sa volonté? Si vous avez laissé vos parents décider pour vous ce que vous deviez croire ou ne pas croire, alors tout ceci s'est adressé directement à vous. Si vous n'avez pas choisi vous-même votre religion, votre Dieu, votre Christ, alors réfléchissez et méditez sur ce que vous venez d'entendre. Si vous croyez et si vous vous repentez, alors qu'est-ce que vous attendez pour vous marier à Jésus-Christ? Vous tous qui m'écoutez, oubliez tout ce que je viens de dire pour ne retenir qu'une seule petite chose. La conversion est un changement. Une transformation spirituelle qui correspond à un acte propre de l'homme, faisant lui-même suite à une invitation de Dieu. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai. Personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement en tant car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, 9h. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous garde.